Les auditeurs ont la parole.
Le grand jury des auditeurs.
Bonjour William Galibert, vous allez bien ?
Ça va très bien Eric, bonjour à tous.
En un mot, pour ceux qui nous écoutent, nous sommes avec Jean Lassalle qui va répondre aux questions des auditeurs. Jean Lassalle, sa carte d'identité, il n'est pas parlementaire.
Il n'est plus parlementaire, mais enfin, il a usé ses culottes sur les bancs de l'Assemblée pendant quoi, une vingtaine d'années.
Une bonne vingtaine d'années.
Et alors, il est parti dans la course aux élections européennes, une liste qui...
Oui, et c'est une surprise, parce qu'il y a encore quelques semaines, Jean Lassalle, on ne s'attendait pas du tout à vous voir débarquer comme tête de liste de cette liste Alliance Rurale. Alors, on a pas mal de questions à vous poser, d'autant que tout ne se fait pas de manière très apaisée depuis que vous êtes arrivé tête de liste. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler, Eric.
Oui, tout à fait. Allez, première question de nos auditeurs. Vous êtes prêts, Jean Lassalle ?
Oui, mais je voulais dire que je ne suis jamais arrivé de manière apaisée nulle part,
oui,
en politique, et que pour le reste, moi-même, je ne pensais pas que je allais être tête de liste comme ça.
Bon. Franck, bonjour mon cher Franck.
Vous ouvrez le bal, Franck. Merci bien. Oui, j'ai pris mon téléphone quand j'ai entendu ça. Parce que bonjour monsieur Jean Lassalle, excusez-moi, je ne vous ai pas salué.
Bonjour.
Moi, ma question, ça va être dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Vous faites de la politique depuis 1977. Moi, je suis né en 1976. Pourquoi vous ne profitez pas de vos cotisations retraite parlementaires ? Pourquoi vous vous présentez aux élections européennes en 2024 alors que vous aviez dit en 2022, après le premier tour des présidentielles et également les législatives de juin 2022, que vous arrêtiez la vie politique française ?
Ça, c'est Franck qui est à Nice qui vous pose cette question. Jean Lassalle, une réponse.
Cher Franck, je sors d'une déprime. Parce que lorsque j'ai arrêté en 2022, je ne me suis pas présenté parce que je venais de subir 3 opérations du cœur grâce au vaccin Johnson contre le Covid, qui a été d'ailleurs retiré de la vente 15 jours après que j'étais vacciné. Et je devais en subir une 4e au moment où il fallait déposer les listes. Donc c'est mon frère qui s'y est collé. Mais je pensais que ça allait se passer comme ça.
Vous continuez la politique parce que c'est la meilleure façon pour ne pas sombrer dans la déprime ?
Mais écoutez, je suis maire depuis 77, ce monsieur Franck l'a rappelé, il est 76, et je ne pensais pas, j'ai toujours été, excusez-moi, mais j'avais le sentiment d'être habité par une destinée.
Oui.
Et une destinée, vous ne pouvez pas la couper vous-même, c'est les électeurs ou c'est la mort. Et moi, je voyais arriver de plus en plus vite le cimetière, parce que j'étais désemparé, je ne trouvais même pas de rôle dans ma vie, alors que je suis père de 4 enfants, marié, ma femme est toujours là, et 3 petits-enfants. Mais il me manquait, je voyais la France sombrer, et je me trouvais en délit de fuite.
C'est que de la passion, Jean Lassalle. Il y a aussi des questions matérielles. Votre parti, Résistons, n'a pas beaucoup d'élus, n'a pas de députés, par exemple. Vous-même, vous n'êtes plus élu. Est-ce que il faut aussi manger et c'est pour ça qu'on vise Strasbourg et Bruxelles ?
Alors, d'abord, mettons les choses au point. D'abord pour ma famille, parce que c'est quand même très important. 7000 euros de retraite, il y en a qui bouffent à moins que ça. Bon, de ce côté-là, c'est réglé. Le parti Résistant, il allait moins mal que d'habitude. Parce que le nombre de fois où j'ai l'air enfloué, ça fait beaucoup. Sauf que, à un moment donné, il y a un mois et demi, je ne sais pas quand, on s'est fait prendre en flagrant délit de n'avoir qu'un expert comptable alors qu'il en fallait 2. Quand vous dépassez 220 000 euros en caisse, il vous faut 2 experts comptables. Or, l'expert comptable nous avait dit surtout pas, vous ne les dépasserez pas.
D'accord.
Et pour un seul soir, aujourd'hui, nous ne sommes pas autorisés à afficher le nom Résistant et à défiscaliser les dons que nous pourrions avoir.
Très bien. Gilles nous appelle également au 3210. Bonjour, mon cher Gilles.
Bonjour, Eric.
Où êtes-vous, Gilles ?
Je suis à côté de Reims, à Tinque, dans la Marne.
Votre question,
Jean-Marc. Je dois venir à Reims, monsieur Gilles.
Ah, écoutez, c'est vous boire du champagne, ça vous change un petit peu des bons vins du Sud. Bon, non, mais je ne plaisante pas, là. Oui, ma question, elle est déjà, je suis très surpris, qu'est-ce que vous venez faire dans cette galère compte tenu du score qui vous sont donnés ? Et deuxièmement, j'ai vraiment l'impression que vous êtes le poisson pilote d'Emmanuel Macron dans cette campagne, en piquant des voix au parti souverainiste en général, et plus particulièrement au Rassemblement National.
Ah,
Ah, ça, c'est une question qui est assez complète. Et j'ai une minute, d'après notre ami Eric. Alors, d'abord, galérien, c'est le terme qu'emploie ma femme. Elle me dit, tu n'es qu'un galérien. Et là, tu pouvais enfin être un peu peinard. Mais non, il faut que tu y retournes. Donc, je ne suis pas étonné par la première partie. La deuxième, comment je deviens un soutien à Macron en venant enlever des voix au Rassemblement national et je ne sais à qui d'autre, peut-être à Zemmour et à d'autres. Mais, moi, je ne sais pas. Si quelqu'un peut établir qu'à un moment ou à un autre, j'ai eu une relation avec Macron, sauf au début, parce que je venais de faire 6000 km à pied durant 9 mois, François Hollande m'invite à l'Élysée et le seul que je vois vraiment passionné par ma rencontre, c'est un jeune homme que je prends pour un stagiaire de l'ENA. Et je lui dis, vous êtes jeune. Mais non, je suis secrétaire général adjoint de l'Élysée. Un an après, il y a deux ministres, dont celui du redressement productif, et un autre qui disent piquez pas nom de Hollande. Hollande les vire. Et qui je vois arriver? Mon stagiaire de l'ENA, ministre des Finances. Et là, nous avons une année de bonheur.
C'était Emmanuel Macron.
C'était Emmanuel Macron. Et ministre des Finances, on a été plutôt copains.
Est-ce que vous allez servir, pour reprendre la question de Gilles, allez-vous servir ses intérêts en vous présentant et en piquant des voix aux listes, aux européennes souverainistes, Jean Lassalle?
Écoute, je ne suis pas du tout dans cette optique. Je pense que c'est mon dessein. Ce n'est pas un projet, c'est un dessein. Et beaucoup plus important. Je veux redonner la parole à 70% de la France qui s'est éteinte depuis une vingtaine ou une trentaine d'années et qui se meurt. Il n'y a qu'à voir les paysans.
13h09, vos questions à Jean Lassalle, 32-10, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole. Le grand jury des auditeurs.
Bon, nous sommes avec Jean Lassalle, mesdames, messieurs. Chaque semaine, nous aurons une tête de liste aux élections européennes et c'est vous qui posez les questions. Gilles, on a l'air accroché. Gilles, il avait posé sa question, mais ils vont poser une deuxième. Alors, rapidement, Gilles, on vous écoute. Votre deuxième question à Jean Lassalle.
Ma deuxième question concerne le créneau de chasse, pêche, nature et tradition. Ça me rappelle une liste d'il y a une vingtaine d'années qui avait fait des élus au Parlement européen, qui avait fait plus de 5%. Mais ces élus-là se sont retrouvés tout seuls au milieu des 700 autres parlementaires, ils ont dû se mettre dans les non-inscrits. Et quand on est non-inscrit dans une grosse nébuleuse comme le Parlement européen, on ne fait rien. On ne fait rien d'avancer. Et bah, je dirais, à la limite, on favorise ses adversaires.
Oui.
Donc je voudrais savoir, monsieur
Jean Lassalle.
Jean Lassalle, pardonnez-moi, si vous étiez élu, dans quel groupe vous souhaiteriez siéger?
Vous seriez où?
Avec le groupe des macronistes actuels. J'en reviens là-dessus.
Cher Gilles, chaque fois que je suis arrivé quelque part, j'ai commencé à observer ce qui se passait et quels étaient les compagnons que j'allais fréquenter. Rassurez-vous, ça ne prend pas 6 ans. Je vais assez vite. Qu'est-ce qu'on peut faire si on est non inscrit? Je peux effectivement se le demander. Moi, j'ai passé 15 ans non inscrit à l'Assemblée nationale. Est-ce que quelqu'un a dit une seule fois que je n'en faisais pas assez? Non, on m'a toujours reproché d'en faire trop. Est-ce que quelqu'un m'a dit que j'étais resté un inconnu notoire? Non, c'est que j'étais trop connu et très combattu. Donc, ne vous faites pas de soucis de ce côté-là. Je n'ai pas besoin d'aller voir M. Macron pour faire entendre ma voix et Willy Schrem encore moins que moi.
Bon, merci Jean Lassalle. Au revoir Gilles. Question suivante dans un instant. William Galibert,
oui,
du service politique.
Pour compléter la question de Gilles, les auditeurs de RTL peuvent aussi se demander qui ils vont trouver sur cette liste quand ils iront voter dimanche 9 juin pour ces européennes. Parce qu'on nous avait promis il y a quelques mois le chef Pierre Gagnaire. Il n'est pas là, il est parti. On nous avait promis le rugbyman Louis Picamol. Il n'est plus là depuis qu'il a appris que vous étiez là. Il est parti, tout comme une flopée de maires ruraux qui dénoncent une pantalonnade qui explique que l'accord pour vous nommer tête de liste s'est fait en catimini et sans les prévenir. C'est quoi ce
Il est parti
quoi,
à cause de vous, Picamol, alors que vous êtes le père d'un grand joueur de rugby, Jean Lassalle.
Qui a joué contre lui.
Qui
le considère comme un grand joueur. D'abord, la flopée, c'est 4 hommes. Donc, j'allais rencontrer au salon. Celui-là, il était tellement déçu. Je l'ai vu tout de suite. que celui-là, il allait faire un très gros caprice, il s'appelle Jaoulou, je ne sais comment. Ouais. Et j'ai dit à Willy, là, tu vas avoir un client. Et celui-là, il va t'en faire partir un paquet. Moi, je pensais qu'il faisait partir les trois quarts de la liste. Il n'en a fait partir que quatre, dont un qui revient. Et il est question que Picamol, dont mon fils m'a dit, surtout ne laissez pas repartir, il est très bon, revienne aussi.
Vous souhaiteriez que Picamol, l'international de rugby, revienne sur la liste, sur la ruralité pour les Européens.
Personnalité, oui.
François a fait le 32-10. Il est dans le Calvados à Caen. Vous voyez, il n'y a pas que des gens du sud-ouest qui veulent vous poser des questions. Bonjour François.
Et nous avons une image nationale.
Une image nationale.
Européenne.
Ah, François, bonjour.
Bonjour, bonjour. Et puis, amitié à M. Lassalle. Mais voilà, je trouve ça une politique de gaspillage. C'est toujours ces petits trucs, ces petits partis. Vous savez que monsieur, comment je vais dire, avec Horizon, Mme Pécresse, avec. Il ferait mieux, monsieur de la salle, il se rendrait un peu plus, c'est-à-dire il n'y aurait plus d'intérêt, il serait mieux écouté à l'Assemblée, s'il se mettrait par exemple avec les Républicains et que lui prendrait ce programme de défendre la chasse, voyez, c'est-à-dire se mettre directement associé au départ.
Ah. En
fait, ça fait des divisions partout. Et puis à la fin, il manque des points pour être au deuxième tour. Vous savez, c'est ça.
C'est une théorie, ça. Défendre la chasse, on la défendrait mieux au sein d'un grand parti en incarnant la chasse dans une grande boutique comme les Républicains ou une autre. Jean Lassalle.
Mais j'ai eu des contacts avec les Républicains, mais seulement, ils étaient déjà au moins 5 ou 6. Il n'y en avait pas un qui tenait le même discours. Ils étaient tous dans les mêmes chapelles dont vient de parler monsieur. Sauf peut-être leur tête de liste, que je juge différent parce qu'il a fait une bonne campagne la dernière fois. Donc, cher monsieur, je n'ai pas pu parce qu'il y avait des chapelles partout.
Il y a beaucoup de ruraux et de chasseurs qui votent pour les LR, la tradition du parti gaulliste.
Et vous allez retrouver des chasseurs dans les rassemblements nationaux. Vous allez enlever énormément de points à la droite. C'est-à-dire, moi, je vous trouve inutile, vous voyez ce que je vais vous dire. C'est malheureux de vous dire ça parce que je vous apprécie. Vous êtes plus comique que votre programme, des fois. Alors, des fois, ça fait sourire, on est content. Mais aujourd'hui, il va falloir rassembler la droite. Elle est morte, la droite, vous voyez. Et un jour, il faudra faire aussi des primaires de gauche, éliminer tous les petits partis comme vous, monsieur de la Salle. Je ne veux pas vous dire ça en mal, mais c'est-à-dire que quand on voit Poutou avec 0,5, Madame Marteau, tous ces gens-là qui mangent à la gamelle, des subventions de l'État pour faire de la politique, c'est des entreprises commerciales, ça, vous voyez ce que je veux dire. Il y en a marre de ça, toutes les caisses sont ruinées comme ça. Il faut faire comme l'Amérique, il faut faire des primaires de gauche, réunir tous ces gens-là de gauche. Par exemple, vous êtes de droite, monsieur Lassalle, je suppose. C'est-à-dire vous dire, tiens, je suis avec les Républicains, mais je vais défendre la politique pour les chasseurs.
On a François, là, qui est dans le Calvados, il est intéressant, lui. Il trouve qu'il y a une vie politique trop morcelée en France et que vous contribuez, vous, à morceler, non pas la gauche, mais la droite, et que vous seriez bien mieux dans une grande maison, c'est-à-dire un grand parti, le Rassemblement National ou bien les LR. C'est vrai que vous êtes un homme de droite, vous êtes la droite rurale.
Non, je suis...
Ne me la jouez pas, je suis ni de droite ni de gauche.
Non. Et je me suis battu toute ma vie. Je suis un homme aligné comme l'était le général. Et je suis profondément gaulliste et gaullien. Et aujourd'hui, si quelqu'un a envie d'aller chez les Républicains, mais qu'il y aille. Parce que si monsieur pense que les Républicains sont ce qu'ils ont été du temps de Sarkozy, il se trompe.
Oui.
Si les socialistes pensent qu'ils sont ce qu'ils étaient du temps du choc Valéry Giscard d'Estaing contre Mitterrand, c'est fini. Oui. Il y a 30 ans, tous les partis ont implosé. Et moi, au contraire, j'en ai créé un de nouveau qui n'implose pas parce qu'il est toujours en vie.
Et il faut juste le dire à notre auditeur et rendre à César ce qui est à César et à la salle qui est à la salle, c'est que Jean Lassalle a fait plus de voix que le Parti Socialiste, par exemple, à la dernière présidentielle.
Et le Parti Communiste.
Et pas beaucoup moins que la candidate des Républicains.
À quelques encablures de la candidate.
3,13% à Jean Lassalle à la présidentielle 2022. 1,2 million voix à la dernière présidentielle, c'est pas rien. Lisa Marie, vous avez plein de messages d'auditeurs. Vous savez quoi ? On va les écouter dans une minute.
Les auditeurs ont la parole. Le grand jury des auditeurs.
Le grand jury des auditeurs, c'est avec vous dans Les Auditeurs ont la parole. L'atypique député béarnais Jean Lassalle se présentera aux élections européennes du 9 juin prochain. Il est notre invité. Vous lui posez des questions. Chaque semaine, nous aurons un invité tête de liste aux européennes. Pour vous, et c'est vous qui ferez le boulot. Lisa Marie, il y a beaucoup d'appels au 3210. On écoute les questions au téléphone. Mais il y a aussi beaucoup de questions qui sont posées sur les réseaux sociaux pour Jean Lassalle.
Un point que je voudrais faire remonter, monsieur Lassalle, bonjour. Quand on a annoncé votre venue sur les réseaux sociaux, on a reçu des messages concernant les accusations d'agression sexuelle et de viol. Je précise que vous avez été entendu par la police judiciaire et vous êtes ressorti libre et sans poursuite. Mais certains auditeurs se demandent si ça ne va pas être un problème pour votre campagne et au cours de votre mandat si vous êtes élu.
Alors d'abord, permettez-moi, parce que je vais oublier, monsieur a parlé tout à l'heure de comique. Toi, à l'instant d'atypique, oui. Je suis quand même un député très classique. Hein. Oui. J'ai fait une vie politique la plus longue, d'ailleurs, et même à 21 ans. Mm. Alors, les affaires sexuelles et de crimes, de viols, je n'ai jamais violé personne. J'ai été embêté du temps de MeToo, et puis finalement, il devait y avoir 4 plaintes de déposer, il n'y en eut aucune. Et quant à la dernière, une dame enceinte glissée dans mon lit d'un ibis de Bordeaux que j'aurais violé immédiatement. J'ai été entendu par la directrice de la PJ et par le major chargé de l'enquête. Et à la fin de 5 heures, moi j'avais proposé qu'il y ait face à face. Enfin, ça nous aurait fait gagner du temps. On m'a dit, écoutez, on n'a rien trouvé dans son dossier. On m'a montré une photo que je n'ai pas reconnue, mais l'ensemble de la liste qui se présentait avec moi, c'était une liste régionale. Aucun n'a reconnu cette personne.
Vous ne craignez pas que... J'entends ce que vous dites, et d'ailleurs l'enquête a eu lieu, donc on ne va pas revenir dessus.
Hein.
Est-ce que vous ne craignez pas, dans le contexte actuel, que cela vous revienne comme un boomerang
Mais, cher Eric, mais en politique, si on craint, on reste chez soi avec sa camomille, et on soigne sa dépression. Moi, je n'ai jamais eu peur, surtout de ce que je n'ai pas fait. Il y a une justice dans notre pays, et je lui fais confiance.
Bien.
Et jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais eu aucun jugement contre moi.
Question suivante.
Autre question, une question de Cédric sur l'Instagram d'RTL. Monsieur Lassalle, que pensez-vous de l'Europe d'aujourd'hui, et y croyez-vous toujours ?
D'abord, il faudrait parler l'Europe... Elle est très vieille, c'est un continent. Par contre, l'Union européenne, non. Parce que ça ne fonctionne décidément pas. D'ailleurs, ça sert plus de prétexte à Emmanuel Macron, aujourd'hui, le président, l'actuel président, pour prendre tous les médias en otage et toutes les campagnes et tous les candidats pour qu'on ne parle que de ça. Mmh. Comme si la France allait déclencher la guerre à la Russie demain matin. Donc ça, je pense que M. Macron, une fois de plus, gagnerait un peu plus de responsabilité et de mesure. Mmh. Donc l'Union européenne, non. Je ne suis pas pour le Brexit. Si j'avais été anglais, je l'aurais voté. Mais la France...
Vous avez dit Brexit, mais le Frexit, vous êtes pour le Frexit ?
Non. Mais je vous explique la différence. La France, elle a une réalité territoriale sur toute l'Europe. Ce que les Anglais n'ont pas eu, c'est une île. Et d'ailleurs, ils ont eu vite fait de retrouver le Commonwealth.
Oui.
Mais nous, le sang qui a coulé partout, nous l'avons partagé. Et nous détenons la force de dissuasion. Et laisser tous les frangins dans cette situation, pas très sympa. Par contre...
Vous pensez, ça c'est intéressant, vous pensez que la France est le seul pays du monde, de l'Union européenne, pardon, à disposer, le seul de l'Union européenne à disposer de l'arme nucléaire, puisque vous venez de l'évoquer, vous pensez que, contrairement à ce que disait De Gaulle, il voulait que l'arme nucléaire, la doctrine, c'était protéger la France et les Français si elle était agressée par une autre puissance, vous pensez qu'il faudrait la partager avec les autres pays de l'Union européenne cette...
Alors surtout pas.
Non.
Non, c'est la force de...
Ce que vous venez de dire, il ne faudrait pas laisser tomber les frangins, en parlant des voisins européens.
Mais on les protège. Je ne veux pas dire qu'on met tout le monde sous le même toit.
D'accord.
Nous les protégeons. Les Anglais ne sont pas là, nous sommes les seuls. Deuxièmement, le général avait parlé de l'Europe des nations. Et si Pompidou ne l'avait pas contrarié, Pompidou qui venait lui aussi comme Macron de chez Rothschild déjà à l'époque.
Oui.
Eh bien, il y aurait eu certainement l'Europe des Nations. Il n'y a pas de raison de penser que les six qui ont créé ce qu'ils pensaient être la véritable Union européenne de progrès, d'humanité, d'humanisme, immense projet, et qui ont vu aujourd'hui les États-Unis d'Amérique en Europe, ne s'y retrouvent pas du tout. Mais il n'est pas interdit de penser que 5 ou 6 pourraient m'aider à créer l'Europe des Nations. Mais ce n'est pas la première année que je vais créer ça, parce que si je dis ça en étant député européen, personne ne me croira. Mais par contre, c'est ça qu'il faut semer
l'Europe
au niveau
des
européen.
Nations.
Et c'est ce que nous allons faire avec l'Alliance rurale de Willy. Parce que Willy, il a exactement
Willy, Willy Schren, c'est le patron, je le dis, hein, ceux qui ne sont pas chasseurs, de la Fédération française de chasse avec qui vous avez monté. Comment elle s'appelle, votre liste aux européennes? Elle a un nom
Alors, pour l'instant, elle s'appelle toujours l'Alliance rurale, parce que Willy était parti avec ce titre au départ.
Oui.
Et actuellement, c'est-à-dire maintenant qu'il, à l'heure qu'il est, nous, trois équipes, parce qu'il y a l'Alliance rurale. Moi, j'avais le parti résistant. La France authentique, donc je pense que je vais mettre la France authentique.
Oui.
Il y a le petit parti d'Élie Pujolan, qui est la ruralité, la France rurale,
oui.
Qui est aussi rentrée avec.
Donc vous êtes en train de réfléchir à un nom, une.
Oui. Un programme commun, un peu comme celui qu'avait animé François Mitterrand.
D'accord.
En son temps.
Très bien, il faudra que vous parliez de votre programme, parce que vous parlez, pour l'instant, les lignes fortes de votre programme, on les voit de façon un peu floue, on va en parler dans un instant. William Galibert.
Oui, mais qu'on soit donc clair, et vous venez d'en parler, pour savoir quelle est l'Europe qui sera défendue par cette liste. Vous nous dites pas de Frexit, pas de sortie de l'Union, et vous faites référence toujours à l'Europe des nations telle que la voulait le général de Gaulle, donc ça veut dire moins d'Europe, pas une sortie, mais moins d'Europe, moins de traités, moins de construction à 26, à 27, à plus. Et c'est ça que vous allez défendre si vous êtes élu.
Si on veut continuer à faire des moulinets, à se réunir à Madrid, et on n'a pas le temps d'attendre que le chancelier d'Allemagne soit rentré en Allemagne de Madrid pour qu'il dise exactement le contraire de ce qu'il a dit, on peut continuer comme ça. Sauf que ça ne mène pas bien loin. Si on veut voir l'agriculture française crever, comme elle crève actuellement, les artisans, les commerçants, les services publics à la française, il n'y a plus rien qui tient, même pas la médecine, ni les hôpitaux, l'instruction publique, rien. Eh bien, il n'y a qu'à continuer. Moi, je suis pour que la France retrouve sa voix dans le concert des nations, comme l'a dit le général. Et je veux qu'ensuite, nous ayons une véritable relation de partenariat, mais avec chacun responsable chez lui, rendant compte à son électorat, et une véritable, comme dans une communauté de communes, un président qui regroupe, mais l'ancienne communauté de communes, pas celle de 300 habitants.
On garde l'euro, on garde la monnaie unique, oui ou non?
Ça, c'est à voir.
C'est à voir. Vous répondrez tout à l'heure. Vous répondrez tout à l'heure. C'est le grand jury, mesdames, messieurs, des auditeurs ont la parole. Vous nous appelez. Et dans une seconde, ce sera Bénédicte qui est avec nous. Bénédicte, vous êtes là?
Oui.
Bonjour, Bénédicte. Oui.
Bonjour.
Je vous garde au chaud. Vous poserez votre question à Jean Lassalle. Et vous répondrez également, Jean Lassalle, sur la question de William Galibert. Est-ce qu'on garde l'euro? À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Le grand jury des auditeurs.
Bonjour Monsieur Lassalle, Clément de Toulouse. Est-ce que la colère des agriculteurs et leur mobilisation vous ont motivé à entrer dans la course aux européennes?
Bonjour cher Clément de Toulouse, la ville rose de nos héros. Écoutez, le stade de Toulouse, oui, ça a précipité ma décision. Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai rencontré Willy Schren. L'homme du Sud rencontre l'homme du Nord.
Oui. Le rappelle, le patron de la Fédération française de chasse.
Oui, et de l'Alliance rurale.
Et de l'Alliance rurale.
Et le courant est immédiatement passé, je ne pensais pas. Et depuis, bien, nous travaillons d'arrache-pied pour ajuster le projet et le programme.
Mais tous ceux qui nous écoutent, là, il y en a une immense majorité qui ne sont pas chasseurs. Vous leur dites que vous faites une liste pour les chasseurs, uniquement pour les chasseurs?
Je peux finir de
rappeler. Allez-y.
Non, bien sûr, c'est la terrible crise des paysans, cher ami, qui m'a poussé à prendre la décision, parce que j'ai été, je pense, pratiquement à tout le rassemblement. Et ils étaient moins nombreux que d'habitude, parce qu'ils sont quasiment morts. Il n'en reste plus. Pratiquement plus du tout. Et ceux qui sont sans espoir. Ma fille, qui est installée pendant 4 ans pour succéder à mon frère à la tête du troupeau, il y a tellement de bureaucratie qu'elle est obligée de retourner à l'université. Ça, c'est une réalité. Oui, cher monsieur, c'est un des problèmes qui m'a poussé. Alors, il n'y a pas que de la ruralité et il n'y a pas que l'agriculture, cher Eric. Mais depuis combien de temps un monsieur a parlé de chasse, pêche, nature et tradition? Ne parle-t-on pas, ne parle-t-on plus de ce que représente la vie en dehors des grandes villes, où d'ailleurs on est malheureux d'être trop entassé, et chez nous on est malheureux d'être trop clairsemé. Moi, ce que je veux avec Willy Schrem,
et vous voulez des villes à la campagne ?
Non, tout simplement retrouver la cohésion authentique qui a fait ce que la France est restée. Un jardin à la Le Nôtre, première destination touristique du monde, entretenu grâce aux maires, aux paysans et aux chasseurs, parce que la plupart des chasseurs sont aussi des paysans, et vice-versa. Et si nous perdons ça, nous perdons très gros, et beaucoup plus que ce que l'on imagine, que ce qu'on imagine uniquement en parlant monde rural. Moi, je veux parler aussi bien à notre auditeur des Champs-Élysées qu'à celui de la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, que la rue, de celui de la rue Servies à Pau. Notre discours n'est pas de dresser les uns contre les autres, mais à partir de la campagne dont nous sommes tous issus, si on regarde assez loin, eh bien, retrouver cette cohésion française qui nous fait tellement défaut.
Jean Lassalle répond à vos questions. Bénédicte est avec nous. Bénédicte, bonjour. Quelle est votre question pour Jean Lassalle ?
Bonjour Eric, bonjour Monsieur Lassalle. Ça tombe très bien dans vos propos, Monsieur Lassalle, parce que moi j'aimerais savoir comment vous envisagez ou proposez une refonte de la politique agricole commune pour éviter justement que les agriculteurs travaillent comme des ennemis par rapport à l'Espagne, l'Allemagne ou la France, puisque j'ai vu les trois manifestations, mais travaillent main dans la main et qu'on puisse avoir du coup une agriculture apaisée dans ce que vous appelez l'Europe des nations, et notamment par rapport au financement.
Merci beaucoup, Bénédicte, et je sens toute la sensibilité à fleur de peau qui vous anime dans cette question. D'abord, il y a une liste qui ressemble à la nôtre, à Willy Schrem, Denise Reiboff et moi, qui va se monter certainement en Italie, une autre en Espagne, et peut-être une autre en Hollande. Donc nous serons déjà plusieurs à faire entendre ce son de voix. Pour le reste, ce n'est pas parce que nous allons arriver aujourd'hui que nous allons pouvoir revoir la politique de la PAC. Moi, j'ajoute simplement au projet de l'Alliance rurale de Willy, j'ajoute ce que j'avais dans mon programme présidentiel, c'est Campagne de France, grande cause nationale. Si on veut rebâtir une agriculture, les artisans, reconstruire les hôpitaux, reconstruire l'instruction publique, eh bien, il faut une dotation de 3 milliards à 4 milliards d'euros par an. Je les sors d'où ? Je les sors pour 1 milliard de la dotation de 22-23 milliards que nous versons tous les ans à l'Europe.
Oui.
Parce que je trouve que c'est une priorité. Et je retire 2 milliards de la PAC, dont je ne sais pas très bien s'ils iront en Ukraine, ou dans les Pyrénées, ou en Picardie. Je les retire pour lancer ce grand projet, Campagne de France, grande cause nationale, après un référendum. Mais pour ça, il faudrait que je sois un peu président de la République aussi avant.
Oui, une bagatelle. La PAC, vous la changez ?
Une bagatelle, je monte à chaque fois.
Oui. Non, mais cela dit, je le redis, hein, vous avez fait plus que... Qu'est-ce que vous disiez, William Galibert ?
Plus de voix que Anne Hidalgo, par exemple, à la dernière présidentielle. 1 200 000 voix.
Voilà, c'est ça, 3-13.
Plus de voix que le Parti communiste.
Et Jean Lassalle, répondez en deux secondes. Bénédicte, elle vous demande, est-ce que vous changez structurellement la politique agricole commune, la PAC européenne ?
Oui, et je pense que plus radicalement encore, cher Bénédicte, parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait sortir, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, et quelle que soit l'organisation que l'on promeut par ailleurs, la politique agricole des traités de l'Union européenne. Il faut que la politique agricole puisse être le porte-drapeau de chacun de nos pays.
Bénédicte.
Et si à ce moment-là, on retrouvait la France avec son agriculture, comme du temps de Chirac, pas le Chirac président, mais celui qui claquait les portes de Bruxelles, bien, croyez-moi, ça changerait et l'amitié entre les pays redeviendrait beaucoup plus fluide que l'espèce de concurrence acharnée qui est organisée aujourd'hui entre nous.
C'est ce que disait Bénédicte entre les agriculteurs espagnols, etc. Bénédicte, est-ce que ça vous va, cette réponse, ma chère Bénédicte ?
Alors on va faire avec, mais il y a du travail, parce qu'on n'a pas beaucoup de réponses précises pour un travail main dans la main et tous ensemble, et non les uns contre les autres.
C'est parce qu'il y a du travail que je reviens, Bénédicte, avec vous.
Eh ben, j'écouterai les suites de votre démarche et de votre politique.
Merci Bénédicte. Dans un instant, nous serons avec Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Eric, bonjour Monsieur Lassalle.
Une
bonjour,
question sur le monde agricole, vous, c'est ça?
Oui, Monsieur Lassalle.
Eh bien non, vous savez quoi? On restez avec nous, vous la poserez dans une minute.
Les auditeurs ont la parole.
Le grand jury des auditeurs.
Il a été maire pendant 40 ans de Lourdios-Ichère dans le Béarn, de 77 à 2017. Il a été député pendant 20 ans du mouvement Résistons et il a pris la tête d'une liste rurale, chasseur, campagne française. C'est Jean Lassalle, vous lui posez des questions. Jean Lassalle, c'est la question de Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel.
Oui, bonjour Éric, bonjour Monsieur Lassalle. Quand vous serez, Monsieur Lassalle, député européen, est-ce que vous allez mettre en place des mesures pour que, dans les traités, les secteurs qui sont sacrifiés aux traités puissent être indemnisés par les secteurs bénéficiaires? L'agriculture est toujours le parent pauvre de ces traités, et toujours le sacrifié. Ça pourrait rendre les traités acceptables si, notamment vis-à-vis de l'Ukraine, les agriculteurs pouvaient bénéficier financièrement de la solidarité des autres personnes qui bénéficient de la sécurité militaire que nous octroie l'Ukraine en se battant pour nous.
Ah oui, vous dites que finalement, avec l'arrivée sur le marché français de produits ukrainiens, de poulets ukrainiens qui ne sont pas taxés, puisqu'on les aide dans cette guerre, c'est une façon de les aider, il faudrait peut-être redonner aux agriculteurs victimes de cela un peu d'aide, quoi.
Bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'Ukraine. Si pour l'Ukraine, il faut acheter du blé, le fait que le prix baisse à l'intérieur de l'Union européenne ne doit pas peser que sur les épaules des agriculteurs.
Je comprends.
Et c'est en général le cas pour tous les traités, le CETA, l'accord avec le Chili, l'accord avec la Nouvelle-Zélande. C'est ça qui ne va pas, c'est que les bénéficiaires n'indemnisent pas les perdants.
Jean Lassalle.
Écoutez, très cher Jean-Michel et puis Éric, à l'instant, vous venez de formuler parfaitement une des questions clés que je retrouve dans les barrages des agriculteurs. Oui, l'agriculture est perpétuellement sacrifiée sur l'autel de ces accords. Pourquoi ? Parce qu'il semble que le monde agricole n'a plus aucun poids électoral, qu'il ne pèse plus, qu'on peut se permettre de le piétiner, puisque de toute façon, il va bientôt disparaître. Donc vous avez totalement raison, et comme vous avez raison, je n'allonge pas davantage. Alors par contre, comment on peut compenser ça? Vous savez qu'au début, nous allons être, si tout va bien, peut-être 5 députés européens si nous faisons 5%. Si nous ne faisons pas 5%, nous allons sentir passer l'addition. Hein. Bon, eh bien, c'est en commençant à tenir un discours totalement différent, mais parfaitement compris dans tous les pays de l'Union européenne et totalement inaudible et inappliqué parce que plus personne ne le tient, que nous allons progressivement créer, comme je l'ai fait très souvent à l'Assemblée nationale, un puissant courant qui va le rendre possible.
Merci Jean Lassalle, merci Jean-Michel. Joséphine, je crois, vous laisse également une question sur le répondeur. Des auditeurs ont la parole sur RTL. Joséphine.
Bonjour RTL, bonjour Monsieur Lassalle. Êtes-vous pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne ?
Êtes-vous pour l'entrée de l'Ukraine dans l'UE ?
Écoutez, même les plus grands architectes de l'UE européenne ne disent qu'elle ne remplit pas les conditions alors qu'elle est en situation de guerre. Je ne vais quand même pas être sur cette affaire plus royaliste que le roi. Je fais partie de ceux des Français qui sont très nombreux, qui se considèrent comme un peuple de résistants. Donc l'Ukraine est en résistance, même si le problème avec Moscou est autrement plus compliqué et si l'intervention de l'OTAN depuis 30 ans a pourri à la chute du mur de Berlin, toute autre possibilité. Mais je pense que, effectivement, l'Ukraine n'est pas prête à rentrer dans ce qui, j'espère, ne va pas durer longtemps, l'Union européenne.
Elodie nous a appelé par nos 3210 également. Ma chère Elodie, bonjour.
Bonjour, bonjour Monsieur Lassalle.
Et posez votre question.
Bonjour, moi j'ai une question par rapport au permis de conduire et la visite médicale. J'aurais voulu savoir le positionnement de M. Lassalle par rapport à ça.
Ah oui, on a parlé d'une visite médicale pour le permis de conduire régulière, pour effectivement voir si on voit bien. Si... C'est un élément nouveau ça, Jean Lassalle.
Cher Élodie, vous avez du soleil dans la voix. Et c'est pour ça que je suis... C'est pas uniquement pour ça que je suis sensible à votre question, mais figurez-vous que j'ai fait l'objet d'un retrait de permis qui a duré 36 mois et en fait 5 ans, parce qu'il m'a fallu 5 ans pour le retrouver. Ce qui m'a valu d'ailleurs une scène qui est devenue culte sur YouTube.
Je la regarde le soir avec mes enfants voilà. Sur YouTube.
Parce que vous voulez pas
Jean
que je
Lassalle la parle. À l'Assemblée nationale qui récupère comment, qui explique comment il doit récupérer son permis de conduire.
Voilà. Et de 36 mois, je suis passé à 6 mois. Donc, madame, soyons très clair, je suis opposé avec la dernière des énergies à cette visite médicale qui déciderait que monsieur de tel âge, à tel âge, on ne conduit plus. C'est un manque de respect, mais total à l'égard de l'homme. D'ailleurs, on ne le respecte plus, même quand il est tout petit, on le respecte même plus quand il pousse son dernier soupir, on l'a laissé tomber de partout. C'est parfaitement que des idées comme ça, qui pourraient arriver à s'imposer, aient pu être pensées, c'est une objection. Non, je crois que quelqu'un qui sent qu'il n'est plus en mesure de conduire, d'abord il y a sa famille autour, il y a des amis, et puis il y a lui-même. Il le sent. Et moi je vois des hommes et des femmes que j'ai bien connus qui me disent « Bon écoute, j'arrête de conduire parce que je ne le sens pas. »
Jean Lassalle, on a quand même entendu des témoignages déchirants de familles brisées ces derniers mois par des conducteurs qui clairement n'étaient plus en mesure, que ce soit en âge ou en état de conduire. Est-ce que c'est totalement illégitime de se dire de temps en temps, tous les 5 ans, tous les 10 ans, on va voir un médecin qui vérifie que tout va bien et qu'on est capable de faire ça. Ce n'est même pas une question d'âge.
Mais vous croyez
ça que paraît parfois être une question de bon sens.
Vous croyez que ça ne se fait pas? Combien de check-up chacun d'entre nous ne passe-t-il pas tous les 5 ans? Peut-être à votre âge un peu moins, mais je peux vous dire qu'ils sont nombreux. Et puis après, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ce n'est pas parce qu'il y a... Quelque part, c'est malheureux, hein. Un chien écrasé, que tous les chiens du monde sont écrasés. Excusez-moi, mais je dois me faire comprendre sur ce sujet qui est si gravissime. Non, ça, ce serait une atteinte absolument inacceptable à la vie. À la vie, tout simplement, à la vie privée, à la vie citoyenne.
Certains, il y a quelques années, disaient que mettre une ceinture de sécurité, c'était une atteinte inacceptable à leur liberté. Aujourd'hui, question ne se pose plus.
Oui, vous avez totalement raison. Mais il y a quand même une petite différence. C'est que si vous rouliez avec une ceinture et des nouveaux véhicules, vous vous rendiez compte à quel point elle était utile rapidement. Tandis que je me demande comment un homme de 70 ans, à qui on interdit tout véhicule, toute conduite, pourra trouver que sa vie a changé.
Nous avions fait une émission dont les auditeurs ont la parole et nous avions des experts du monde des assurances, etc., qui disaient que les personnes âgées sont beaucoup moins accidentogènes que les 18-24 ans. C'est une réalité statistique, même s'il y a des drames, même s'il arrive parfois qu'une personne très âgée ait tué des gens sur la route, c'est vrai, c'est terrible, mais pour autant, statistiquement, quand on prend le ratio des personnes âgées, elles sont moins accidentogènes que les jeunes.
Très bien. Absolument.
On se retrouve dans un...
Absolument. Et là, c'est les statistiques.
Les auditeurs ont la parole.
Le grand jury des auditeurs.
Il a fait 1 200 000 voix à la dernière présidentielle. Il s'appelle Jean Lassalle, il est dans le studio, il répond à vos questions, car il sera tête de liste d'une liste aux prochaines élections européennes. C'est au mois de juin. Jean Lassalle, question de Dominique, je crois, sur l'Ukraine. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour Monsieur Brunet, bonjour Monsieur Lassalle. Alors, déjà, une aparté, monsieur Lassalle, appelez donc votre liste France Rurale Authentique, ça fera comme la France, dans toutes les compétitions sportives, on a ça sur l'écran, donc ça pourrait vous être utile.
France Rurale Authentique, voilà authentique. Une bonne idée, voilà. Dominique. Vous recevrez un chèque de France Rurale Authentique.
Éric, et de Condon. Et de... Oui. Vous comprenez très bien, dans le Gers.
Sinon, en ce qui concerne ma question, j'aimerais que monsieur Lassalle nous précise sa position en ce qui concerne l'Ukraine. Déjà, première chose, est-ce que la France doit vraiment quitter l'OTAN, comme il l'a déjà demandé? Et deuxième chose, comment peut-on aider l'Ukraine sans que cela porte préjudice au point de vue économique, notamment à nos agriculteurs?
Voilà. Quelle est votre position sur l'Ukraine? Faut-il aider l'Ukraine agressée par les Russes?
Alors, cher Dominique, j'ai déjà partiellement répondu à votre très importante question il y a quelques minutes. Nous sommes un peuple de résistants et je ne vois pas qui peut se désintéresser de la résistance magnifique du peuple ukrainien. Mais j'ai ajouté aussi que depuis la chute du mur de Berlin, à cause des Américains, et parce que l'Union européenne n'a pas pesé du tout, nous sommes tous devenus les États-Unis d'Europe. Sauf qu'il y a quand même une petite différence entre le Colorado, qui n'est pas forcément la Rome antique ni la Grèce antique. Il y a un petit peu de différence entre l'Ohio, qui n'est pas la vieille Espagne, ni la France éternelle. Donc, vous voyez, il faut mettre les choses en perspective. Je crois que les Américains nous ont imposé de les suivre dans cette folle cavalerie de l'OTAN, alors qu'il eût fallu aider les successeurs de monsieur, comment il s'appelait, celui qui avait l'œil avec une tache de vin.
Gorbatchev,
dans son idée de revoir totalement la situation après que le mur de Berlin est sombré.
Oui.
Et je crois que là, nous avons perdu une occasion historique parce que la Russie, c'est quand même la Russie.
Et quand Emmanuel Macron dit qu'il ne faut pas exclure une intervention au sol en Ukraine contre les Russes.
Qui est-ce qui le croit? Tellement il a menti chaque fois qu'il y avait une campagne électorale sur ces sujets. Quand il allait à Moscou et qu'il se retrouvait à 30 mètres de Poutine pour lui parler sur une table ovale comme un ballon de rugby, et qu'il lui disait « Ta Russie éternelle va s'éteindre, et toi aussi, et vous allez tous disparaître. » Moi, quand on m'envoie un commissionnaire pareil, je lui dis « Gardez-le à la maison. » Il aurait mieux fait de faire campagne en France à ce moment-là, et il aurait beaucoup plus rendu service parce qu'il aurait débroussaillé. Il reprend cette ancienne parce qu'il veut bloquer au sol tous les candidats et tous les journalistes qui pourraient être amenés à parler, par exemple, de pouvoir d'achat, qui pourraient être amenés à parler de services publics, amenés à parler d'avenir de la jeunesse dans notre pays. Quel est leur devenir? Y en a-t-il l'heure que vont devenir les étudiants? Comment on traite les grands problèmes de société auxquels nous faisons face aujourd'hui? Non, de tout ça, rien. Il bloque là-dessus un débat qu'il a volontairement faussé depuis plusieurs semaines déjà.
Merci Dominique. Joël pose une question également. Nous allons du côté du 3210. Joël, vous avez la parole. Jean Lassalle vous écoute.
Oui, bonjour Monsieur Lassalle. Bonjour Monsieur Brunet. Moi, je me demande comment vous allez concilier la législation européenne pour l'adapter aux régions. Et vu les disparités, par exemple, je dirais au niveau de la chasse, au niveau de l'écologie et au niveau des utilisateurs de la nature. Et actuellement,
pour contenter tout le monde, contenter tout le monde.
Contenter ou au moins faire quelque chose qui uniformise un peu les positions. Aujourd'hui, il y a 3, 4, 5 types de chasse. Si vous chassez en Moselle, vous n'avez pas les mêmes dates d'ouverture, vous ne payez pas les mêmes taxes, parce que si vous chassiez la griffe, puisque je crois que vous êtes du Sud, nous, ça n'existe plus. On commence à chasser au 1er juin, vous commencez à chasser fin septembre. Il y a toute une disparité que la législation européenne ne prend pas en ligne de compte. Et comment comptez-vous faire pour uniformiser ça, quoi?
Jean Lassalle.
Écoutez, il s'appelle monsieur...
Joël.
Cher Joël, vous connaissez très très bien le sujet et il ne m'étonnerait pas que vous soyez chasseur. Ou alors peut-être vous êtes écolo, mais je crois plutôt chasseur. Et vous avez totalement raison sur le constat, il est vrai, il n'y a pas à s'apesantir là-dessus. Par contre, avec les écologistes, c'est différent. Je ne parle pas des associations sincères de protection de la nature qu'on peut avoir ici ou là. Je parle de la multinationale qu'a constituée le WWF à travers la France et le monde entier en faisant de l'économie, de l'écologie, une véritable arme de combat décisif et violent pour nous faire perdre totalement jusqu'au souvenir de ce que nous fûmes. Alors, le général de Gaulle avait dit « L'huile et le vinaigre ne se mélangent pas ». Je le pense en ce qui concerne les adeptes du WWF. Ils sont très nombreux, ils sont très nombreux partout, mais ils vous mentent. Alors, pour réglementer, eh bien, il faut tout d'abord bien connaître le dossier. Et si vous laissez votre téléphone au standard, je prends des contacts, mais c'est plutôt une question pour Willy Schrem, qui est quand même le spécialiste de cette question. Vous le comprendrez bien.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.